16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission qu'on présente avec Stéphane Bern, parce qu'on adore s'amuser, s'instruire en s'amusant.
Et aussi et surtout, gagner beaucoup d'argent.
Non mais surtout s'amuser. Surtout s'amuser quand même Stéphane, hein, c'est ce qu'on se dit encore en tête.
Oui. Mais escroc. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ah, vous ne changerez donc jamais. Subtiliser des sons en douce dans mes récits, les sortir de leur contexte. Vous savez que c'est très vicieux,
moi,
Mathieu.
Je sais, oui.
Cela dit, relativisons. Certains ont fait bien pire en douce. Ils se sont mariés. Et j'en connais un qui l'a fait d'ailleurs récemment, très récemment. Mais ce n'est pas de vous dont on va parler aujourd'hui, Mathieu.
Ni de vous, Stéphane. Hein.
Voilà. Ah, allez, on y va. On réunit aujourd'hui des couples qui se sont dit oui dans le plus grand des secrets. Alors, à commencer par un roi, Louis XIV, qui a épousé en seconde noce sa favorite, Madame de Maintenon, dans la chapelle du château de Versailles, au beau milieu de la nuit. Puis, eux aussi se sont mariés en secret, en Corse. Un couple mythique, formé par la star américaine Jean Seberg et l'écrivain double prix Goncourt, Romain Gary, à la vie digne d'un roman ou d'un film, sans le happy end hollywoodien, malheureusement. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un couple plus glamour et plus proche de nous.
Pour vivre heureux, vivons cachés. Logiquement, c'est plus dur pour les stars mondiales. Et pourtant, James Bond l'a fait. Daniel Craig a épousé Rachel Weisz en toute discrétion. Un mariage classé top secret avec seulement 4 invités. Et un mariage qui dure, même si le dernier article en date sur Internet s'intitule « Daniel Craig et Rachel Weisz au bord du divorce, point d'interrogation ». Nous verrons si, entre-temps, l'interrogation a été levée. On est un peu inquiet quand même.
Et avec nous, comme chaque jour, oh mon Dieu, Mathieu, ce qu'on a eu peur. Souvenez-vous, hier, ne la voyant pas arriver, on avait déclenché l'alerte enlèvement.
Oh oui, Stéphane, usant de vos contacts au placé à l'Elysée, nous avions effectivement obtenu le déclenchement de l'alerte. Clémentine Portier-Keltenbach, historienne renommée, était portée disparue.
Les lunettes et la coupe de cheveux de Nana Mouskouri.
Oui.
Elle est
beaucoup,
pleine de vie et d'appétit.
Oui.
Voilà, elle parle. Dites Napoléon. Et vous allez voir, elle va se retourner.
C'est un apo. C'est comme un. C'est ça.
Heureusement, elle est de retour aujourd'hui. Les hypothèses les plus folles hein, ont circulé sur sa disparition.
Ouais, panne de réveil, mais à 16h, c'est quand même rare. Déclaration soudaine d'une maladie auto-immune qui empêche de répondre au téléphone.
Heureusement, Mathieu, c'était beaucoup moins grave que ce qu'on imaginait. Elle avait juste un 4 à 7 avec son amant et aujourd'hui, elle est de retour.
D'abord, c'est un 5 à 7, pas un 4 à 7, mais
bah oui,
elle
est plus heureuse. Oui, mais là, en l'occurrence,
quand on est gourmand,
ça dure.
Non,
plus
mais écoutez, je vais vous refroidir. Si je vous disais que j'étais plutôt coincé derrière un camion poubelle avec une
Fiat 500.
C'est nettement moins glamour. Oui.
On reste dans l'amour aujourd'hui, parce que vous allez évidemment recycler la chronique que vous devez nous faire.
Ah oui, mais alors moi, mes personnages, ils n'auraient pas pu se marier en douce du tout, Julien et Marguerite de Ravalet, parce qu'ils étaient frères et sœurs.
Ah, oui,
mais ils se sont aimés en douce.
Donc c'est un amour incestueux.
C'est un amour incestueux, amour interdit, qui a très très mal fini, parce qu'en 1603, Henri IV leur refusa sa grâce, et ils ont eu la tête tranchée, place de Grève, tous les deux, Julien et... On les appelle les Roméo et Juliette du Cotentin. C'est une très belle histoire d'amour, très attendrissante, et vous verrez qu'il vous conduit à être plein de compassion pour ce couple interdit, effectivement très coupable, mais en même temps tellement touchant.
De l'inceste et des têtes tranchées, tout pour vous plaire aujourd'hui, Stéphane.
Oui,
hein.
Oui. Mais heureusement, nous avons David Castel-Lopez, qui dans l'émission remonte toujours aux origines d'une invention qui fait notre joie au quotidien.
Oui, qui a fait le quotidien de Jean il y a un petit moment déjà. C'est un modèle d'appareil photo dont je vais vous parler, qui s'appelle le Kodak Disc. Et je pense qu'au moins, Olivier, Clémentine et Stéphane, vous avez dû le connaître pendant une courte période.
Ça ne me dit rien du tout.
Oui, mais c'est pour ça. C'est, en gros, c'est un appareil des années 80 qui devait révolutionner la photographie amateur, qui n'a révolutionné que dalle.
Ouais, il a fait pchit.
Il a fait complètement pchit.
Et puis, Olivier Pouls, alors là, grand classique des desserts.
Oui, je vais vous parler de la mandarine et de la clémentine. Et donc, j'ai apporté là des clémentines.
Une clémentine. Apporter une clémentine.
Ça, c'est sûr. Bah oui,
quel effort incroyable.
De dessert, vous voyez.
Quand on vous mangez rien, à chaque fois que je me casse la tête pour vous emmener des plats extraordinaires.
Vous n'y avez pas touché, me semble-t-il.
Non, je ne touche
pas
rien,
plus au cornet de bif qu'autre chose. À chaque fois, il met en avant son régime comme une espèce de totem d'immunité.
Il a fondu.
Oui,
c'est un verre nouveau que nous avons.
Exactement. Vous êtes jaloux, c'est tout.
Ah oui, ça, ils sont tous, enfin surtout Olivier, parce que David,
il a la peau sur les os.
Enfin, les amis, notre célèbre quiz Burn to be Live reprendra son cours normal. En effet, hier, en l'absence de Clémentine, Stéphane avait décroché une victoire facile, presque par forfait, puisqu'il était opposé à deux suppléants guère cultivés, Olivier et David. Mais aujourd'hui, gare à vous, Stéphane, les choses sérieuses reprennent. Rendez-vous aux alentours de 5h moins le quart. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre premier couple du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Stéphane s'est fait beau, enfin plus beau devrais-je dire pour l'occasion, puisque nous partons dans son endroit préféré.
C'est l'Élysée.
Non Stéphane, l'autre endroit préféré, Versailles. C'est là-bas, à l'abri des regards et en pleine nuit, que nos héros du jour se sont dit oui. Stéphane Bern nous raconte le mariage secret de deux petits cachotiers, Louis XIV et Madame de Maintenon.
Chut Mathieu, ne dites rien à personne.
Comptez sur moi.
Mais en effet, le roi s'est remarqué.
À la mort de son épouse Marie-Thérèse d'Autriche, à l'âge de 44 ans, Louis XIV s'est empressé, à peine plus de 2 mois plus tard, de s'unir à Madame de Maintenon, l'une de ses nombreuses favorites. Le roi de France a fait sa connaissance alors qu'elle élevait les enfants qu'il a eus avec une autre favorite, Madame de Montespan. Vous suivez ?
Oui, je suis encore. Eh bien, mais j'ai le droit de parler plus fort ou on est toujours en secret ?
Suivez-moi.
En cette nuit du 9 au 10 octobre 1683, je vous emmène à Versailles dans le plus grand des secrets. Dans la chapelle du château, un étrange ballet s'opère et le silence règne. Mais qui peut bien être debout à cette heure-ci ? Un insomniaque qui a ressenti une envie pressante de prier ? Non, non. Il se déroule tout simplement à l'abri des regards indiscrets, un mariage exceptionnel, celui du roi Louis XIV. Accompagné de 4 témoins indispensables à la conformité de l'union, le roi Soleil épouse en seconde noce sa dernière favorite, Madame de Maintenon. Tout a été calculé pour mener à bien ce projet top secret. Comme il est interdit de se fiancer et de se marier le même jour, les fiançailles ont eu lieu juste avant minuit. Et quelques minutes plus tard, les voilà unis par les liens du mariage. Mais vous vous demandez, pourquoi le roi de France se marie-t-il en secret ?
Oui.
Il fait bien ce qu'il veut, il est le roi. Oui, mais il ne veut pas être la risée de toute l'Europe, car son union est morganatique. Morganatique signifie que le roi épouse une femme d'un rang inférieur, et carrément inférieur, là, puisque là maintenant est une ancienne gouvernante, fille d'un voyou et veuve d'un poète. C'est ce qu'on appelle une belle revanche sur la vie. Avant de devenir la marquise de Maintenon, Françoise d'Aubigné naît en novembre 1635 dans la conciergerie de la prison de Niort. Sa mère, Jeanne de Cardillac, s'y est installée pour être auprès de son mari, Constant d'Aubigné, incarcéré pour dette. Si le père, et je vous le disais, un voyou notoire, le grand-père en revanche est le célèbre poète et homme de guerre Agrippa d'Aubigné. Françoise appartient donc à une lignée prestigieuse. C'est en Guadeloupe que la jeune femme apprend à lire et à écrire sous l'égide de sa mère. Elle est ensuite présentée à la haute société parisienne par sa marraine. Ses cheveux châtains et ses yeux noirs envoûtent ses contemporains qui la surnomment la belle indienne. Alors qu'elle n'a que 16 ans, Françoise d'Aubigné est mariée à un homme infirme, le poète Paul Scarron. Cet écrivain libertin, de 25 ans son aîné, est connu pour sa maîtrise du genre burlesque. Il meurt 8 ans après leur union, laissant un paquet de dettes à celle qu'on appelle désormais la veuve Scarron. Mais il lui laisse également de l'esprit et un art de vivre qu'elle a acquis en fréquentant les salons de son mari. Quelques mois plus tard, c'est justement dans un salon qu'elle rencontre la marquise de Montespan. Les deux femmes s'entendent bien et sa nouvelle amie n'est pas n'importe qui, c'est la favorite de Louis XIV. En 1669, la Montespan lui confie l'éducation des 7 enfants qu'elle a eus avec le roi. La veuve Scarron est désormais la nounou des bâtards royaux. Et c'est une nounou d'enfer. Dans le village de Vaugirard, non loin de Versailles, Louis XIV leur rend visite et voit donc Françoise aussi. Sa première impression n'est pas terrible. Au départ, il la trouve pédante, précieuse et ressent même une certaine répulsion à son égard. Mais lorsque l'un des enfants meurt en bas âge, Françoise d'Aubigné est effondrée. Le roi se rend vite compte qu'elle n'est finalement pas celle qu'il croyait. Bien au contraire, elle s'est bien aimée. Il y aurait du plaisir à être aimé d'elle, écrit-il en 1672. Pour la remercier de s'occuper de ses bâtards, Louis XIV lui offre 250 000 livres de rente. La veuve Scarron l'investit dans un domaine, le domaine de Maintenon, dont elle prend le nom, ce qui lui permet de s'élever socialement. Et elle ne s'arrête pas là. La voilà qui se rapproche dangereusement du roi. En 1679, Madame de Maintenon est nommée dame d'atour de la Dauphine. Après la disgrâce de la marquise de Montespan, accusée dans l'affaire des poisons, et la mort de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, la voie est totalement libre. Et le roi, plus pieux que jamais, ne veut plus vivre dans le péché. Les amants se marient donc en secret en 1683. Si Madame de Maintenon est seulement son épouse morganatique, elle est représentée dans un manteau d'hermine de velours bleu foncé par Pierre Mignard, comme une vraie reine de France. Louis XIV demande à son peintre de ne pas représenter de fleurs de lys. Bon, il faut tout de même pas exagérer. Sa favorite, désormais élevée au rang d'épouse, a une forte influence sur le roi. Tous les jours, Louis XIV se rend chez elle, dans son appartement qui donne sur la cour royale du château de Versailles. Il travaille et reçoit ses ministres en sa présence, tandis qu'elle travaille à sa broderie en silence. Les deux amants s'offrent des moments privilégiés. L'historien Lucien Bélier raconte une anecdote surprenante. En entrant un jour chez le roi, monsieur, son frère, le trouve sur un lit avec la seringue d'un lavement bien en place. Madame de Maintenon étant à ses côtés, le roi, en riant, dit à Philippe qu'il doit deviner, en le voyant dans cette situation, la place que Madame de Maintenon a désormais auprès de lui. Pour cette place que certains pensent non méritée, les courtisans jalousent celle qui prend alors le titre de marquise de Maintenon. Les accusations pleuvent. Voilà qu'on lui met beaucoup de choses sur le dos. Sa piété, assez spectaculaire, fait qu'on lui prête un rôle décisif dans l'interdiction du culte protestant. Vous savez, en 1685, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes et lancé des persécutions contre les protestants. Mais il faut noter que ce grief est avancé par la belle-sœur du roi, la princesse Palatine, qui déteste Madame de Maintenon et va la salir dans ses mémoires. On reproche aussi à la femme du roi le ton délétère de la cour, l'ambiance triste et austère qui y règne. Il faut dire, il est vrai que l'heure n'est plus à la fête. Au niveau des relations intimes, c'est compliqué. Le roi n'a plus de palais.
Pas de palais. Pas de palais.
Pas de palais dans la bouche.
Ah oui, d'accord.
Et plus de dents non plus. Tout ça à cause de dysenterie à répétition et d'un dentiste maladroit. À l'aube du XVIIIe siècle, la santé du roi Soleil décline encore. En 1715, portant perruque et cotonnade précieuse, Louis XIV agonise dans sa chambre de parade. Il a une gangrène à la jambe. « J'ai vécu parmi les gens de ma cour, je veux mourir parmi eux », confie-t-il. Tout de noir vêtu, Madame de Maintenon veille sur le balai des courtisans et des médecins autour du roi mourant. Celui-ci lui glisse à l'oreille. « J'ai toujours ouï dire qu'il est difficile de mourir. Pour moi, qui suis sur le point de ce moment si redoutable aux hommes, je ne trouve pas que cela soit difficile. » Louis XIV s'éteint le 1er septembre 1715. Madame de Maintenon, quant à elle, se retire à Saint-Cyr, cette maison d'éducation destinée à des jeunes filles de noblesse modeste et sans fortune qu'elle a elle-même créée. C'était le grand projet de sa vie et c'est en ce lieu qu'elle est enterrée après sa mort, en 1719. Elle lègue son château de Maintenon à sa nièce, la future duchesse de Noailles. Soucieuse de l'étiquette, elle prend grand soin de faire disparaître toute trace de son mariage. Toute, sauf une preuve irréfutable. Une lettre retrouvée par les héritiers du domaine qui nous permet d'affirmer que Louis XIV et Madame de Maintenon, une nuit d'octobre 1683, se sont bien mariés dans le plus grand des secrets. Mais chut !
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler des amoureux secrets, le roi Louis XIV et Madame de Maintenon, nous sommes avec l'historien Alexandre Maral, qui connaît Versailles presque aussi bien que Stéphane, voire encore mieux, hein, disons les choses.
Beaucoup mieux.
Bonjour Alexandre.
Beaucoup mieux.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Maral. Alors, je le rappelle, vous êtes conservateur général au Musée national des châteaux de Versailles et Trianon et l'auteur de Madame de Maintenon, La presque reine, parue aux éditions Belin. Alexandre, sur quelle source avez-vous travaillé pour écrire cette biographie? Parce que dans votre livre, vous parlez de près de 5000 lettres attribuées à Madame de Maintenon, mais qui sont pour beaucoup des copies de copies, ou encore même des copies de copies de copies. Comment approcher la vérité dans ce contexte ?
Alors, le dossier n'est pas simple, et en effet, je me suis appuyé sur les lettres authentiques, celles qui sont véritablement de sa main, et puis, je dirais, les copies vraisemblables, qui n'ont pas un parfum de documents trafiqués. Et puis après, donc, tous les témoignages extérieurs sont évidemment bienvenus. C'est une destinée très mystérieuse, et la constitution du corpus, pour la connaître, est assez compliquée, en effet.
Mais comment ça se fait qu'on ait une preuve de cette union, puisque Madame de Maintenon a cherché à supprimer toutes les traces de sa relation avec le roi? Si elle a gardé une lettre, elle se doutait bien qu'un jour, elle finirait par être découverte.
Alors, la lettre à laquelle vous faisiez allusion n'était pas dans la possession de Madame de Maintenon. C'était une lettre de l'évêque Godet des Marais, et elle n'était pas écrite à Madame de Maintenon. Mais alors, il y a un autre témoignage. Elle est fautive, si je puis dire. C'est une lettre qu'elle a recopiée dans un de ses carnets secrets. Simplement, comme elle a énormément écrit, elle n'a pas pu tout détruire. Elle a échappé à son attention destructrice.
Dans votre livre, vous revenez notamment sur la destinée hors du commun de Madame de Maintenon, qui évoque selon vous ces contes de fées où les bergères épousent des rois. Il y a quelque chose de fantasmagorique dans l'histoire d'amour entre elle et le roi Louis XIV, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Enfin, ça se trouve que dans les romans à l'eau de rose, finalement.
Oui, c'est quelque chose qui était tout à fait inhabituel, inédit, unique. Et Madame de Sévigné, qui a été plus ou moins au courant de l'affaire, s'en étonne dans sa correspondance en des termes. Elle dit c'est absolument incroyable ce qui se passe. Et en effet, on n'avait jamais vu ça et on ne le verra plus.
Vous dites que cette union constitue sans doute l'exception la plus spectaculaire à la règle des barrières sociales ordinairement énoncées à propos de l'Ancien Régime. C'était la première fois qu'un mariage de ce type avait lieu ?
Oui, parce qu'en principe, les rois épousent des princesses. Et là, elle n'a pas du tout ce rang-là. Mmh. Alors certes, elle est de famille noble, mais ce n'est pas du tout la noblesse qui est admise dans le lit du roi.
Mais du fait, Alexandre, du fait qu'il n'y ait pas d'enfants, parce qu'évidemment, ils sont tous les deux sur un retour d'âge, en quelque sorte. Au fond, il y a moins de conséquences, je comprends bien que toute la cour se soit offusquée de ce mariage secret, mais en fait, il n'y avait pas de conséquences.
Alors, il n'y a pas que les enfants, parce que le fait qu'elle épouse le roi, ça peut lui donner un rang à la cour. Et donc, c'est la vie quotidienne, le cérémonial, qui s'en trouverait perturbé. Et là, donc, il n'est pas question de publier ce mariage pour cette raison-là. Pas seulement parce qu'il n'y aura pas d'enfants.
Alors, Stéphane le racontait, ce mariage s'est concrétisé donc dans le plus grand des secrets, avec tout juste assez de témoins pour que l'union soit officielle. Mais dès le lendemain, on imagine que la nouvelle devait être sur toutes les lèvres à Versailles.
Alors, la nouvelle a circulé, mais pas auprès de tout le monde. Par exemple, c'est très curieux, le représentant diplomatique de l'électeur de Brandebourg, Ezekiel Spanheim, le note dans sa relation. Il pense qu'ils se sont mariés. En revanche, la belle-sœur de Louis XIV, la princesse Palatine, que vous nommiez tout à l'heure, eh bien, elle, plusieurs années plus tard, elle se demande dans une de ses lettres, mais sont-ils, quelle est la nature de leur union ? Elle n'en sait rien.
Donc c'est très curieux. Plus tard.
Oui, et donc c'est comme si on avait pu révéler la nouvelle ou la laisser se révéler auprès de certaines personnes et la cacher soigneusement auprès d'autres.
Et ceux qui sont au courant, ils sont plus choqués de ce mariage que des relations adultères du roi ?
Ils sont surtout surpris. Surpris de voir Louis XIV épouser cette femme que personne ne désignait qui à ce rang-là.
Justement, Alexandre, comment est-elle traitée à la cour d'abord par la cour, mais aussi par sa famille. Est-ce que, par exemple, on lui fait la révérence comme à une reine ?
Alors, pas du tout. Son rang ne change pas. Elle est dame d'atour de la dauphine depuis 1679. Le mariage a lieu en 83, donc 4 ans après. Et ça ne change rien. Ça ne change rien, même pas son costume. Elle écrit dans une lettre que c'est un costume noir. Elle est vêtue de noir. C'est le costume de sa charge. Et ça ne change pas. Et dans les cérémonies publiques, elle n'est pas aux côtés du roi, ni même à la chapelle. Elle se rend à la chapelle indépendamment du roi. C'est très curieux. Ils ont une vie. C'est une séparation rituelle, si on peut dire. Mais ils sont pourtant mariés.
Et à quel moment est-ce que commence la légende noire, la vieille guenille, comme écrit, ou toutes les horreurs qu'on dit sur elle, ça commence à ce moment-là, au moment du mariage, ou ça avait déjà commencé un peu avant ?
Alors, la légende noire, non, c'est plutôt lié à la révocation de l'édit de Nantes. Donc, en 85, 2 ans après le mariage, il y a cette mesure donc, qui a beaucoup été très populaire, mais en fait, qui a beaucoup choqué aussi le milieu protestant ou sympathisant aux protestants, comme Madame Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, et à l'étranger, donc, vont circuler des pamphlets, des libelles, des calomnies et qui vont incriminer Madame de Maintenon comme étant plus ou moins à l'origine de cette mesure. Et Madame s'en fait l'écho dans sa correspondance. Alors, la correspondance de Madame n'a été publiée que bien après, mais lorsqu'elle a été publiée, eh bien, ça a renforcé cette légende noire. Et au XIXe siècle, on écrit que c'est Madame de Maintenon qui a pratiquement révoqué l'édit de Nantes.
Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui, avec le recul, quel était son vrai pouvoir politique auprès de Louis XIV ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors, dans l'affaire de la révocation, il est absolument nul, parce que Louis XIV n'a pas attendu d'avoir épousé Madame de Maintenon pour persécuter les protestants. C'est quelque chose qu'il a fait durant tout son règne. Et elle, dans quelques lettres, elle n'en parle jamais dans sa correspondance des protestants. Donc déjà, c'est un signe que c'est un sujet qui la gêne. Et lorsqu'elle en parle, c'est plutôt pour essayer de réprouver les voies de fait, la force. Elle est plus pour la persuasion. Donc ce n'est pas vraiment son idée, la révocation. On est vraiment à l'inverse de la légende noire.
Comment elle réagissait, Alexandre Marel, sur quand elle se faisait insulter, quand les quolibets de la cour, les humiliations qu'elle devait subir aussi.
Alors, elle n'est jamais insultée frontalement. On la respecte, on la craint, on l'entoure d'un mystère. Mais en effet, il y a des écrits qui circulent et qui parviennent à sa connaissance. Simplement, le roi n'a pas un pouvoir sur l'opinion publique comme un dictateur moderne. On est forcé de composer avec et on ne peut rien faire, en fait. La plupart de ses écrits sont anonymes et arrivent de l'étranger. Donc, il n'y a vraiment aucune prise sur leur circulation, et donc on attend que ça se passe.
Et Alexandre, est-ce que ce mariage avec le roi a modifié la relation qu'elle avait avec les enfants qu'elle élevait, donc les enfants que le roi avait justement eu avec son ancienne favorite, Madame de Montespan? Leur gouvernante était tout de même devenue la nouvelle épouse de leur père, ça devait leur faire bizarre.
Alors ça n'a pas modifié la relation, qui était une relation très, très forte, très affectueuse, et elle a continué à fréquenter et à aimer et à protéger ses enfants qu'elle connaissait depuis leur naissance, en fin de compte. Donc, c'était un peu ses enfants par substitution.
Et ce qu'elle a laissé, c'est une œuvre quand même, les maisons d'éducation de Saint-Cyr, où elle a fini ses jours, d'ailleurs, après la mort du roi. Elle voulait donner une chance à toutes les jeunes filles qui, comme elle, n'étaient ni très bien nées, ni... ou mal née.
Saint-Cyr, oui, c'est vraiment son grand œuvre. Elle fonde cette maison, donc, qui est financée par le roi, mais c'est elle qui en a l'idée, une maison d'éducation destinée aux jeunes filles de la noblesse pauvre. Donc, pour y rentrer, il fallait faire preuve de noblesse et de pauvreté. Et c'est un peu ce qu'elle avait été, une jeune fille de la noblesse pauvre. Simplement, elle n'avait pas bénéficié d'une institution d'État qui vienne lui donner une éducation décente. Et c'est ce qu'elle veut procurer. Elle veut permettre à ces jeunes filles qui, comme elle, sont nées dans des conditions finalement défavorisées, un peu déclassées même, eh bien de ne pas connaître les errances qu'elle a eues dans sa jeunesse. Elle répare en d'autres ce qu'elle a subi.
Merci beaucoup, Alexandre Maral, nous avoir éclairé sur la figure énigmatique de Madame de Maintenon et son mariage secret avec le roi Soleil. Je rappelle votre livre, Madame de Maintenon, la presque reine, paru aux éditions Belin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui défraient souvent la chronique. C'est notre chroniqueuse, justement, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, eux, ont défrayé la chronique plus que vous encore. Julien et Marguerite de Ravalais se sont aimés alors qu'ils n'en avaient pas le droit.
Ah, une histoire magnifique de passion et d'inconscience, auréolée de fatalité. Alors, en tout cas, il y a un certain nombre de grands auteurs qui se sont passionnés pour cette histoire dont le nom ne vous dit rien. Les Ravalais, Barbet de Révilly a écrit à ce sujet, Théophile Gautier. L'action se passe au tout début du XVIIe siècle. Les Ravalais, c'était une très puissante famille de Normandie. Aucun gentilhomme de Normandie n'aurait refusé d'épouser une ou un Ravalais. Presque tous les Ravalais étaient beaux, mais Marguerite et Julien, eux, étaient d'une beauté exceptionnelle. Julien II de Ravalais, lui, il naît en 1582, et à l'âge de 10 ans, il est déjà fou de sa sœur, qui est plus jeune que lui de 4 ans, et qui, comme lui, est née dans leur beau château familial de Tours-la-Ville. Jamais on ne vit sous le soleil de France affection plus touchante, amitié enfantine plus complète, impérieuse et aussi partagée. Alors on les laissait se promener seuls, jouer seuls, dormir ensemble. Ils se ressemblaient de façon frappante. Ils étaient le portrait l'un de l'autre, presque blonds, élégants, sveltes, jouissant d'une éclatante santé. Et on imagine ces deux petits enfants tellement charmants, tellement jolis, un petit couple délicieux qu'on voyait aller et venir sous les chaînes du parc du château de Tours-la-Ville. Jamais le père et la mère ne songèrent à séparer ces deux inséparables. Le jour, la nuit, ils vivaient, respiraient ensemble. Et cet aveuglement, cette facilité avec laquelle on laissa grandir l'attrait entre le frère et la sœur, fut une des causes de la catastrophe. À un moment, Julien part au collège de Coutances, en principe pour 4 ans, pour faire des études. Et alors lui, il découvre un peu la ville, les tavernes, le monde, la foule. Bon, mais pendant ce temps-là, cela aiguise les sentiments de sa sœur, l'absence. Hein. Et quand Julien revient à l'automne 1598, elle le trouve si beau, elle est tellement émue de le revoir qu'elle trouve à peine la force de s'exprimer. Et à partir de ce moment-là, ou en tout cas dans les semaines qui suivent, elle fait de lui un homme, comme on dit pudiquement au 19e quand on raconte ce genre d'histoire. Julien passe de longues heures dans la chambre de sa sœur. Il est impossible de l'en arracher. Leur père leur fait bien quelques réflexions, mais il se défend d'avoir pour sa sœur d'autres privautés que celles autorisées par l'amour fraternel. Les parents quand même commencent à comprendre un peu ce qui se passe, donc ils cherchent à éloigner Julien. On l'envoie à Paris étudier la théologie au Collège de Navarre. On se dit on va en faire un clerc, on va comme ça les séparer. Et puis ils se mettent à chercher un mari pour Marguerite. Marguerite jusqu'à présent a refusé tous les prétendants. Et malheureusement, les parents jettent leur dévolu sur ce qu'on appelle à l'époque un vieux barbon. Je vous laisse juger, un vieux barbon, c'est Jean Lefebvre, sieur de Haut-Pitois, il a 45 ans. Alors pour l'époque, oui, c'est plutôt un vieux monsieur, d'autant que Marguerite en a 13. Mais il est très riche, c'est extrêmement classique, il y a tous les ressorts de la tragédie. Il est très riche, alors Marguerite pleure, supplie en vain ses parents. Ses parents vont lui imposer ce monsieur et ils ont en cela une part de responsabilité parce que s'il lui avait donné un jeune mari de son âge ou un tout petit peu plus, peut-être que Julien de Ravalet aurait renoncé à elle. Il se serait incliné, il se serait dit bon ben voilà, je respecte l'honneur de mes parents, ils ont trouvé un jeune mari très bien pour ma sœur, donc on s'en tient là, mais pas du tout. Et Jean Lefebvre de son côté, le mari, géronte, goûteux, osant s'accoupler à une déesse, ne fut aucunement rebuté par l'accueil glacial de la mariée. Lui, ça le dérange pas du tout. Hein. Il va mettre dans son lit une petite jeunette absolument ravissante de 13 ans. Tout va bien. Mais dès qu'il a le mariage a lieu, disais-je, mais dès qu'il a le dos tourné, le mari, les deux frères et sœurs se revoient. Donc très vite, il va interdire à Julien de mettre les pieds chez eux parce qu'il comprend bien ce qui est en train de se tramer. Et du coup, il devient absolument furieux. Donc il frappe Marguerite, il l'insulte, il la traîne au sol par les cheveux, il lui casse une côte, il l'enferme dans un galetas, il surveille tout ce qu'elle met. Donc une première fois, elle va fuguer chez ses parents. Réenvoyée chez son mari, elle refugue avec Julien de Ravalet. Là, ils vont vivre quelques mois de parfait bonheur à Fougères. Et puis, ils arrivent à Paris, ils fuient à Paris. Et là, ils pensent être en sécurité. Paris est une grande ville. Hélas, le mari a porté plainte et les accuse de double crime, d'adultère et d'inceste. Donc, ils sont repérés dans une auberge. Ils sont arrêtés, naturellement. Au moment du jugement, Marguerite de Ravalet va vouloir tout prendre sur elle pour épargner son frère. Elle va expliquer que c'est elle qui lui a fait des avances, qu'il n'y est pour rien. On va renoncer à les torturer, à les passer à la question, parce qu'on se rend compte que ces deux-là s'aiment tellement que jamais ils ne voudront accuser l'autre. Et de toute façon, ils acceptent la punition, ils ne contestent pas le crime. Il se trouve qu'elle est enceinte en plus. Donc comme elle ne veut pas accuser son frère, elle va accuser un vague artisan qui sera blanchi par la suite. Ils sont donc reconnus coupables d'adultère et d'inceste. Et vous savez quelle est la peine pour
je préfère ne pas le savoir.
Et ben, c'est la mort.
Et ben, c'est la mort, bien sûr. Mais les incestueux devaient être brûlés vifs. Alors le père de Julien et Marguerite, qui est quand même un grand seigneur, va s'entremettre partout où il peut et va arriver jusqu'au roi, jusqu'à Henri IV. Il va le supplier d'accorder sa grâce à ses deux enfants. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Marie de Médicis est là et elle est tellement épouvantée par l'inceste qu'elle incite Henri IV à être plus, sans doute plus dur qu'il ne l'eût été sans elle, en disant « mais enfin, c'est l'abomination de l'abomination ». Et la seule chose que va accepter Henri IV, c'est de commuer la peine de voilà, ils ne seront pas brûlés vite, ils sont décapités, c'est la peine des nobles, et leur père est autorisé à récupérer leur corps. Enfin, ils sont quand même décapités en place de grève le 2 décembre 1603.
En même temps.
En même temps, tous les deux. On dit qu'au château de Tours-la-Ville, leurs fantômes passent de temps en temps, en particulier dans la chambre bleue qui abrita leurs amours en douce, leurs amours interdites.
J'ai très envie d'aller voir. Merci beaucoup, Clémentine.
Fascinante histoire. Ouais, très beau retour gagnant, Clémentine. Mais
merci.
Le retour sera-t-il gagnant dans le quiz?
Non, ça, j'en doute.
Ça reste à voir. À tout de suite.
Europe 1, historiquement vôtre.
Je me souviens, c'est fou la mémoire, je me souviens très bien de la quatrième question que je vous avais posée lors de notre premier quiz. Quel célèbre homme d'affaires est actuel propriétaire d'Europe 1, quand vous m'avez répondu...
C'est François Pinault.
J'ai su qu'on allait avoir de gros problèmes. Jouons, malgré tout, à Bernd Tobiella. Stéphane, la première question est pour vous. Débutons ce quiz en beauté avec Auguste Renoir. Vous situez ?
Oui.
Aussi fou que ça puisse paraître, il ne trouvait pas grâce aux yeux de Zola. Ce dernier a écrit, je cite, « qu'il fallait toujours voir deux tableaux de Renoir à la fois, au moins, il y en a un moins moche que l'autre. Vrai ou faux ?»
Ils n'étaient pas amis ou
quoi ? Non, il était ami avec Cézanne.
Ah, Cézanne, oui.
Donc c'est possible qu'il ait dit ça. Peut-être justement parce qu'il était très ami avec Cézanne.
Moi, je dirais non.
Vous dites que c'est faux ?
C'est faux.
Vous avez gagné !
Vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est vrai que Renoir n'a pas eu que de jolies critiques, mais Zola a toujours adoré ses œuvres, notamment Lise à l'ombrelle, Lise étant la maîtresse de Renoir à l'époque. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Dans Madame Bovary, Gustave Flaubert évoque un objet intime dévoué au plaisir solitaire d'Emma. Il est appelé dans le texte de Flaubert le Godfish. Vrai ou faux ?
Non.
Ah ben, Emma, elle s'ennuyait beaucoup, hein.
Oui, mais enfin, alors là, ou alors c'est parce que je l'ai lu adolescente et que j'étais une voix blanche, mais j'ai pas compris. Non, le Godfish. Non, mais c'est possible, puisque je vous ai déjà expliqué que Godmiché, ça venait du latin gaude mihi, fait réjouis-moi. Donc il n'est pas du tout exclu que si ce genre d'instrument existait, puisque les Olisbos et les Godmiché, ça existe depuis la nuit des temps. Il y avait des Godmiché à l'époque d'Emma Bovary. Maintenant, est-ce que Flaubert cite ça dans Madame Bovary ? Non, je n'ai pas le souvenir et je vais répondre non parce que je ne m'en souviens pas et si je me trompe, je vais me réaliser que j'ai lu ça comme une oie blanche. Donc je réponds c'est faux, non c'est faux.
Vous avez gagné.
Gagné, vous étiez à deux doigts de salir la mémoire de Flaubert, non? Évidemment que Madame Bovary n'a pas... Ça y est, il se rit
non,
dessus.
Non mais c'est incroyable. Alors, parce qu'il a l'esprit mal tourné, ce garçon.
Mais il ne laisse rien passer.
Là, on est avec ses allures d'enfant de cœur, on lui donnerait le bon Dieu sans confession.
Donc, non,
tu parles d'une canaille. Oui.
Il n'y a pas de God dans Madame Bovary, soyons clairs. Ayant passé la Touque en bateau, la marée basse laissait à découvert des oursins, des méduses, des godfish. Flaubert parle ici des coquilles Saint-Jacques. Rien à voir avec cet instrument du diable, visiblement... Cher à Stéphane.
Non,
question numéro 3. Pour vous, Stéphane. Évoquons. On va de Cariborsilla aujourd'hui, Stéphane. Évoquons la Bastille. Ce château qui fut construit au XIVe siècle, symbole de la chute monarchique et du 14 juillet. La clé de la Bastille est aujourd'hui dans la maison d'Abraham Lincoln aux États-Unis. Vrai ou faux ?
Oui.
Ne vous faites pas avoir. Attendez.
Il y a plusieurs clés.
Attendez, il l'a offerte à Washington. Alors, est-ce que de Washington, elle serait passée jusqu'à Abraham Lincoln ? C'est possible, mais il n'a pas été le...
Je sais qu'elle a été offerte à un président ou président américain, mais du coup, j'ai dit oui tout de suite pour Lincoln, mais...
Est-ce que vous maintenez votre oui, ou est-ce que, grâce à l'appel à un ami, vous avez changé votre version ?
Pourquoi est-ce que la famille de Washington l'aurait donnée à... Est-ce qu'il aurait souhaité qu'elle restât au président successif ? Mais c'est,
bon, je vais dire oui. Allez, je dis oui. Il faut se lancer. C'est oui ou non, je dis oui.
Vous avez perdu.
En dépit de l'aide que vous a fournie gratuitement Clémentine, c'est faux, car c'était un piège. Elle est à Mount Vernon, cette clé dans la maison de George Washington.
Ouais, c'est ça.
Cadeau de Lafayette pour symboliser la victoire de la liberté.
Ce serait pas l'effet d'un
cadeau
pareil.
Oui, mais vous voyez, c'est salaud, cette
c'est tout le principe du quiz, Stéphane. C'est le 288e, je crois.
Eh bien, je viens de comprendre.
Vous faites vous insurger. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Une tarte à la reine Claude, c'est bon.
Oui.
Mais la reine Claude était, paraît-il, beaucoup moins appétissante. Elle boitait, était à demi chauve, avait un strabisme à l'œil gauche et souffrait d'un certain embonpoint. Vrai ou faux ?
Oui, c'est vrai. Elle était assez laide et d'ailleurs, le jour où elle est morte, François Ier est allé à la chasse. Alors que le jour où est mort sa maman,
Louise de Savoie,
il est tombé dans les pommes et il n'a pas dormi pendant plusieurs jours. Oui, la disparition de son épouse l'a laissé assez froid et elle était en effet ingrate. Elle est morte à 25 ans, je crois, après avoir donné naissance à son cinquième enfant, quelque chose comme ça, la malheureuse. Oui, c'est plutôt une personnalité attachante, parce que c'est un peu comme Marguerite Stuart, la femme de Louis XI, elle a eu une vie brève. Fille de la vie, qu'on ne m'en parle point, c'est ça, oui. Non, ce que vous avez dit est exact.
Vous avez perdu.
Excellent raisonnement, beaucoup d'informations pour une mauvaise réponse, puisque c'était un piège. Il y a toujours plus pervers encore que les questions pour Stéphane, il y a des questions pour vous. Elle ne perdait pas ses cheveux, mais le reste est vrai.
Mais je me suis dit, vous me l'appreniez, je l'ignorais,
voilà,
ça. Ouais.
Il y avait
je me suis dit, je ne le savais pas.
Un
instrument. Eh bien, c'est ça, voilà, c'est ça. Je me suis dit, je n'ai jamais entendu dire qu'elle perdit ses cheveux, cette dame. Et je me suis dit, un détail de son anatomie que j'ignorais. C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse, franchement. Ce qui nous amène à la question 5.
Ouais,
à Draveil, dans l'Essonne, en 2011.
Chez
et c'est
Alphonse
très rare.
Ah,
non, écoutez bien.
Le
écoutez
ministre
bien, écoutez
qui touche les pieds.
Jean-Jeu Tronc, le fétichiste des pieds.
Oui.
on l'embrasse. À Draveil, dans l'Essonne, en 2011, c'est très très rare, une météorite est tombée sur le toit d'un pavillon. C'était une chondrite, c'est-à-dire provenant de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Quelle autre incroyable coïncidence a eu lieu ce jour-ci ? Trois propositions.
En quelle année vous avez dit ?
2011. La propriétaire faisait visiter la maison au moment de la chute de la météorite. La dame de la maison, propriétaire de la maison, s'appelait Madame Comet. Ou, à 100 mètres près, c'était celle de Guy Carlier, la maison.
Un.
Oui, c'est ce que j'aurais répondu aussi.
Et une visite d'appartement, Stéphane Plaza était là, il faisait visiter l'appartement.
Trois, non, je veux dire
la météorite
trois.
Est tombée.
C'était à 100 mètres.
Vous dites 300 mètres près, alors on a 1 et 3. Je vous propose une autre réponse.
Deux.
Oh oui, Clémentine. Oh oui, ciel et espace, vous êtes très fort dans cette catégorie.
Madame Comet.
C'est la maison de Madame Martine Comet.
C'est génial.
Alors ça pesait 88 grammes, cette petite météorite. Elle a brisé une tuile et c'est l'ouvrier chargé de la réparer qui l'a trouvée. Comme ça, ça n'a pas fait de gros dégâts. On embrasse Martine Comet.
Génial, j'adore cette histoire.
Belle victoire de Clémentine.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Deux heures de rire, de culture, mais aussi d'amour. Autour de nos personnages du jour qui se sont mariés en douce, Mathieu.
Oh, ça me rappelle mon mariage, c'était tellement émouvant, surtout l'échange des anneaux quand David a lu un verset de la Bible.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle.
Eh ben... Je vous en avais voulu de pas m'avoir invité à votre mariage, mais là, je vous en veux plus du tout.
Hein. C'est sûr. Nos personnages du jour non plus ne nous ont pas invités. Ben, normal quand on se marie en douce.
Oui, Mathieu, après Louis XIV et Madame de Maintenon qui se sont mariés en secret et en pleine nuit dans la chapelle du château de Versailles, je vous raconte un autre couple qui s'est dit oui en toute discrétion malgré une vie qui a fait, elle, beaucoup de bruit. La star hollywoodienne Jean Seberg. Et l'écrivain doublement auréolé du Goncourt, Romain Gary.
Et puis Stéphane, vous connaissez le dicton, pour vivre heureux, vivons...
Cunu.
Non, caché, Stéphane. Cunu, c'est en option quand on n'a pas de vis-à-vis. Bref, je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un couple star qui a su, et c'est devenu rare, préserver son intimité lorsqu'ils se sont dit oui, Rachel Weisz et Daniel Craig. Nobody Does It Better, c'est un thème de James Bond. C'est aussi, paraît-il, ce que dit Rachel au sujet de Daniel.
Sans oublier nos chroniqueurs qui aussi le font mieux que personne. Je parle de leur chronique, évidemment. David Castel-Lopez qui nous raconte les origines d'un appareil photo.
Exactement. Le Kodak Disc qui devait révolutionner la photographie amateur, qui n'a rien révolutionné du tout. Je vous le montrerai. J'en ai apporté.
C'est l'histoire d'un bide, en fait.
C'est l'histoire d'un bide total.
Mais le Kodak Disc ne s'est pas vendu du tout.
Si, il s'est vendu un petit peu, mais infiniment moins que ce qui était prévu. Et je vous raconterai donc l'histoire de ce bide. En effet.
Olivier Poulx, c'est avec nous.
Mais je vous parle d'un succès, moi, pour le coup. C'est la clémentine.
Ah oui, vous aimez ça, la clémentine.
J'adore la clémentine. Et puis, je vous donnerai une recette pour l'enfermer tout au long de l'année dans des bocaux pour faire des clémentines confites, pour avoir la saveur de la clémentine avec vous.
Ça, c'est plus intéressant que la clémentine toute seule, je dirais.
Bah oui, la clémentine confite, après on peut
utiliser pour plein de choses. Un peu d'alcool aussi là-dedans ou
pas ? Un tout petit peu, mais à peine.
Un soupçon, évidemment.
C'est le deuxième fruit le plus épluchable après la banane. Quand même.
Ouais. C'est vrai. Ouais.
Et puis, ça y est, comme l'avait prophétisé Marx, le vent de l'histoire a tourné. Après 2 mois d'humiliantes défaites, 2 mois à essuyer les regards méprisants de mon fils de 9 ans qui semblait me dire « Papa, t'es vraiment trop un tocard », ça y est, j'ai retrouvé la grinta dans la lutte finale, ce quiz que je me reprends à aimer et qui conclut admirablement notre émission aux alentours de 6h moins le quart. Mais
non,
tout de
suite... Vous ne ferez pas croire que vous êtes en tête.
Ah bah non, mais j'ai gagné 2 fois de suite. Oui, non, j'ai encore 2 victoires sur toute l'année et vous, 76. Mais tout de suite, découvrons notre deuxième couple du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il est un auteur à succès, lauréat par 2 fois du prix Goncourt, sous son nom et sous le pseudo d'Émile Ajar. Elle est l'icône de la nouvelle vague, star d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Un Français, une Américaine. Ensemble, ils ont vécu une histoire d'amour passionnelle et connu une fin tragique. Stéphane Bern nous raconte ses amants maudits qui se sont dit oui dans le plus grand des secrets. Jean Seberg et Romain Gary.
Sur une vieille photo en noir et blanc, on aperçoit un couple qui pose devant la mairie de Sarola-Carcopino, un petit village du sud de la Corse. L'homme fait lever de la victoire avec sa main droite. La femme, plus jeune, a l'air absente, timide, peut-être même un peu triste. Elle tient entre ses mains un bouquet de fleurs sauvages. Lui, c'est Romain Gary. Elle, Jean Seberg. Le cliché date du 16 octobre 1963. Ce jour-là, ces deux-là se sont mariés en secret, entourés simplement de leurs témoins. L'écrivain français auréolé du prix Goncourt et l'actrice américaine égérie de la nouvelle vague ont choisi de s'unir à l'abri des regards. L'union de La promesse de l'aube et d'À bout de souffle. Comment le destin a-t-il rapproché ces deux personnes que tout semble opposer ?
Gary, un juif de Lituanie, né en 1914, veuve d'une mère trop aimante, et Seberg, une jeune américaine puritaine du Middle West, née dans l'Iowa en 1938. Lorsque Romain Gary obtient le prix Goncourt pour Les Racines du Ciel, Jean Seberg s'apprête à faire ses premiers pas au cinéma. Nous sommes en 1956. La collégienne se présente cette année-là à un concours pour devenir actrice. 18 000 gamines se rêvent déjà stars du 7e art. À la clé, le rôle de Jeanne d'Arc dans le prochain film d'Otto Preminger. Du haut de son 1m56, qu'elle ne dépassera jamais, c'est elle qui va incarner la pucelle d'Orléans, manquant de peu d'être brûlée vive lors du tournage. On peut dire qu'elle a eu chaud. À peine un an plus tard, Jean Seberg donne la réplique à Belmondo dans le film de Godard, À bout de souffle. Elle y incarne une étudiante américaine qui, entre deux rendez-vous avec son voyou, travaille pour le New York Herald Tribune. Très vite, le nom du journal se retrouve sur les t-shirts des jeunes filles qui arborent la même coupe courte que celle qui est devenue désormais une star et leur idole. Trois ans plus tard, la magie du destin opère. En décembre 1959, Jean Seberg dîne avec son mari, un avocat français, à Los Angeles. Romain Gary, alors consul de France aux États-Unis, les invite à sa table. Il a 45 ans, elle en a 21. Leurs regards se croisent et ne se quittent plus, malgré la présence de leurs époux respectifs. Tout à coup, Gary s'adresse au mari de la jeune actrice. « Oh, j'aime beaucoup vos chaussures, est-ce que je peux les essayer ?» L'air étonné, l'homme s'exécute. Il regarde le consul essayer ses chaussures qui lui vont si bien. Mais son culot va plus loin que le bout de la chaussure. Gary lui prend carrément sa jean. « Maintenant que j'ai essayé vos chaussures, je vais prendre votre femme », dit-il, en prenant la main de l'intéressé qui accepte bien volontiers. Et les voilà qui quittent les lieux ensemble. Très amoureux et de retour en France, Jean Seberg et Romain Gary s'installent dans un appartement de la rue du Bac à Paris. Habillés par les grands couturiers, ils parcourent la capitale au volant d'une Chevrolet Camaro verte. Gary, lui, préfère piloter sa Jaguar bleue. Le couple vit d'amour et de mondanité, allant jusqu'à dîner un soir avec JFK et Jackie Kennedy à la Maison Blanche. Pendant ce temps, une gentille gouvernante du nom d'Eugénie élève leur fils Diego. Ils l'ont eu en 1962 à Barcelone, un an avant leur mariage secret dans les hauteurs et dans la chaleur de la Corse. Quand Gary adapte pour le cinéma son roman « Les oiseaux vont mourir au Pérou », il choisit Jean pour incarner l'héroïne. Une jeune femme nymphomane et frigide. Jugé pornographique, le film est interdit aux moins de 18 ans, mais surtout, ce film est un navet. Cet échec fragilise le couple dont les intérêts commencent à diverger. Le cinéma n'est pas la seule passion de Jean. L'actrice américaine se plonge dans la lutte pour les droits civiques. Celle qui n'hésite pas à s'afficher avec un pull à l'effigie de Che Guevara commence à soutenir publiquement les Black Panthers qui veulent, eux, faire entendre la voix des Noirs américains dans un contexte de ségrégation raciale. Et elle décide de les financer massivement. Jean Seberg tombe même follement amoureuse d'un activiste, un cousin de Malcolm X. Forcément, le FBI, qui lutte contre les associations en faveur des droits civiques, l'a dans sa ligne de mire et répand la nouvelle de cet adultère. La séparation avec Gary est inéluctable. Le divorce est prononcé en 1970. L'appartement de la rue du Bac est divisé en deux, mais leur rapport reste formidable, comme le dit l'écrivain français qui enchaîne les liaisons avec de très jeunes femmes. L'ayant placé sur écoute téléphonique, le FBI apprend que Jean Seberg est enceinte. Pour lui faire honte et entacher sa réputation, on annonce via une lettre anonyme que l'enfant à venir est celui d'un militant noir des Black Panthers. Fier de détenir une info si croustillante, le Los Angeles Times ne prend même pas la peine de la vérifier, la publie telle qu'elle. Malgré leur rupture, Romain Gary est prêt à reconnaître l'enfant. Mais il n'en aura malheureusement pas l'occasion. Jean accouche d'une petite fille qui meurt deux jours plus tard. Avant d'enterrer son bébé, l'actrice l'exhibe dans un cercueil en verre pour montrer au monde qu'il est blanc. Le dangereux activiste noir s'avère être en réalité un amant mexicain de passage. Jean ne se remettra jamais de cette perte. Son moral s'effondre, sa santé vacille et son équilibre psychique se lézarde. Se sachant traquée par le FBI, elle est envahie par la paranoïa. Le 8 septembre 1979, on retrouve un corps dans une Renault blanche stationnée dans une rue du 16e arrondissement de Paris. C'est celui de Jean Seberg. L'autopsie révèle qu'elle a succombé à une surdose massive de barbiturique, des antidépresseurs mélangés à de l'alcool. On retrouve plus de 8 grammes d'alcool dans son sang. Elle avait 40 ans. L'enquête de police conclut un suicide. Gary blâme le FBI, responsable selon lui de ses 7 tentatives de suicide. Tentatives qui ont eu lieu presque à chaque fois, le jour de l'anniversaire de la mort de son bébé. Il dispose même d'une preuve, un document officiel du FBI qui parle de la neutraliser.
Jean Seberg a été détruite par le FBI. Je vais vous donner lecture de quelques passages du document. Sujet contre-intelligence. Nous voulons faire passer dans la presse une information to cheapen her image, c'est-à-dire pour abaisser et pour salir son image.
Un an et demi plus tard, le 2 décembre 1980, à 16h30, Romain Gary s'allonge sur son lit. Il a pris soin de se déshabiller, ne conservant qu'un caleçon et une chemise bleue. Il pose une lettre au pied de son lit à l'adresse de son éditeur et prend dans sa main un revolver Smith & Wesson. Il se tire une balle dans la bouche. Sur la lettre, on peut lire les mots suivants. Aucun rapport avec Jean Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. Ainsi s'achèvent tragiquement les vies de ces deux amants maudits qui s'étaient dit oui à l'abri des regards indiscrets un beau jour d'octobre 1963 sous le chaud soleil de la Corse.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du couple Jean Seberg-Romain Gary, nous sommes avec la journaliste qui a raconté leur folle histoire dans un formidable livre. Bonjour Ariane Chemin.
Bonjour.
Bonjour Ariane Chemin, vous avez en effet publié « Mariage en douce, Gary et Seberg » aux éditions Les Équateurs. Un récit qui nous a évidemment permis d'enrichir le nôtre. Plus qu'un récit même, c'est une enquête, puisque vous êtes parti en Corse à la recherche des témoins que l'on voit sur leurs photos de mariage. Finalement, la seule trace visuelle qui existe, n'est-ce pas, de leur union?
Oui, c'est la seule trace qui existe, avec quelques souvenirs de villageois corses. En fait, au tout départ, j'étais dans la vallée de la Gravonne, sur la route qui joint Ajaccio à Bastia, et quelqu'un me dit, tu vois dans les montagnes, là, un jour se sont mariés Romain Gary et Jean Seberg. Et ça m'avait fasciné, j'avais plongé dans les biographies, et j'avais vu deux petits indices. On me disait qu'ils avaient dormi dans tel hôtel, et que le maire de Sarrolac-Urcopino était résistant. Et puis après, en je me suis rendu compte que les deux détails étaient faux. Le maire n'était pas du tout résistant et l'hôtel dans lequel ils étaient censés avoir passé leur nuit de noces n'existait pas à l'époque, il n'avait pas été construit. Et donc j'ai remonté la trace de ce mariage comme une sorte de jeu de piste en me disant mais qu'est-ce que ce couple-là, un Américain, un Slave, pouvait faire dans ce petit village de Corse un jour de 1963.
Et vous expliquez que ce mariage, Ariane Chemin, aurait dû faire la une de tous les magazines, évidemment, Life, Paris Match, Vogue. C'est vrai que Seberg et Gary étaient célèbres et menaient une vie très mondaine. Pourquoi, selon vous, ils ont voulu cacher ce mariage?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, on est en plein dans les années des paparazzi. Vous vous souvenez, 1963, c'est le tournage du Mépris à Capri. Les paparazzi, comme on les appelait, c'est un néologisme à l'époque, avait enquiquiné Brigitte Bardot pendant tout le tournage. Elle n'en pouvait plus. Elle était obligée de se cacher sur des rivas. Enfin, c'était épouvantable. Ensuite, Jean Seberg, comme vous l'avez rappelé, c'est une puritaine, une protestante, qui a signé un contrat avec Hollywood. Et quand on a signé avec un contrat avec Hollywood, on ne peut pas être divorcé. Et on ne peut surtout pas, ce que personne ne sait, avoir un enfant en douce aussi, puisque quand ils se marient, leur fils, Diego Gary, qui m'a gentiment donné la photo du mariage, est né déjà, mais personne ne le sait. Tout le monde l'ignore. Donc vous imaginez deux tâches impossibles pour Hollywood. Et puis, je pense que ce mariage, elle le réclame depuis très très longtemps à Romain Gary. Et pour faire passer un petit peu le retard qu'il a mis à l'officialiser, il a envie de faire quelque chose d'un petit peu romanesque, comme il le fait, quoi. C'est tout Romain Gary d'aller se marier en une journée en Corse en prenant un avion militaire. Et il lui dit, écoute, on va se marier et personne ne nous verra. Et il s'est dit, en Corse, au moins, je trouverai peut-être un maire qui acceptera nous marier sans publier les bans.
Ah, voilà.
Et même une fois le mariage passé, on n'en sait toujours rien. Rien, comme vous dites, sur la cérémonie, la toilette de la mariée, l'humeur de Gary. Mais comment ont-ils réussi à organiser ce mariage en secret alors que dans votre livre, on apprend que Jean Seberg avait annoncé qu'elle épouserait Romain et que les paparazzi les traquaient déjà?
Parce que Romain Gary, ancien résistant qu'il est, a évidemment plein de contacts dans l'entourage du général de Gaulle et il a le général de Gaulle lui-même parmi ses contacts. Il se dit, pour éviter les paparazzi, je vais demander à mes anciens correspondants militaires de me trouver un maire qui accepte de faire ça de la manière la plus discrète. Et donc on envoie en Corse un jeune homme à l'époque, il vient de mourir malheureusement il y a quelques mois, qui en fait, on peut le dire aujourd'hui, un barbouze, et qui traîna sur le cours Napoléon à Ajaccio, et qui voit passer le maire de Sarrolac, qui est aussi conseiller général à l'époque, et lui dit, est-ce que tu m'organiserais le mariage pour quelqu'un de très important? Il ne cite pas les noms, mais quand il les cite, de toute façon, le maire et lui-même ne les connaissent pas, Jean Seberg, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas été voir les films de Godard dans les cinémas d'art et essai à Paris, et puis Romain Gary, ça reste un écrivain de livres qu'ils ne lisent pas forcément. Mmh. Ils acceptent donc de célébrer ce mariage. Donc la seule chose qu'on en sait, c'est cette petite photo magnifique, je trouve extrêmement romantique, où on voit Jane Seberg qui a dû arracher quelques herbes au maquis et ça lui tient lieu de bouquet de mariage. On voit surtout qu'elle a l'air triste, parce que la vérité, c'est que le mariage, il intervient presque trop tard. Elle est amoureuse de Romain Gary, mais elle voulait l'épouser avant.
Alors justement, on remonte un peu le temps. Lorsque Romain Gary et Jane Seberg se rencontrent, chacun est déjà marié, Stéphane nous l'a raconté. Comment leur liaison elle est perçue en France et aux États-Unis ? Ils font partie de ces couples que la presse s'arrache.
Alors d'abord, on n'est pas dans les mêmes, tout à fait dans les mêmes années qu'aujourd'hui. On est à la fois dans les années très puritaines, notamment Yvonne de Gaulle, la femme du général de Gaulle. L'idée de fréquenter un écrivain qui a une liaison hors mariage, il n'en est pas question pour elle. Mais en revanche, l'icône de la Nouvelle Vague et cet écrivain ultra romantique qui a été un héros parce qu'il a survolé dans son avion avec les Anglais, les troupes allemandes. En fait, ce sont deux héros dans leur genre. Et, c'est vraiment le mariage du cinéma et de Godard avec l'histoire française de la Résistance. Donc, il y a évidemment à la fois une odeur de soufre et puis une odeur d'héroïsme.
Mais Jane Seberg et Romain Gary, vous l'avez rappelé, Ariane, ont eu un enfant ensemble, Diego. Mais comment Jane a-t-elle réussi à cacher la grossesse aussi? Comment cette naissance a pu rester secrète?
Elle s'est réfugiée en Espagne, chez la nounou dont vous avez parlé tout à l'heure. Et elle recevait quelques visites d'agents ou de réalisateurs qui voulaient discuter avec elle de films à venir et de tournage. Et elle avait prétexté qu'elle s'était cassée la jambe et elle avait posé un arceau sur son lit et une couverture sur l'arceau. Elle prétendait qu'elle s'était cassée la jambe et personne n'a rien vu de cette grossesse.
Et vous écrivez que Jean ne pardonnera jamais à Romain la longue solitude qu'il lui a imposée et son absence à son chevet avant la naissance de Diego. Au fond, vous l'avez dit aussi, en filigrane, c'était le début de la fin déjà.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de moderne chez Romain Gary. C'est-à-dire qu'il divorce des années plus tard de Jane Seberg, mais comme vous dites, il reste proche. Il a toujours veillé sur elle. Et notamment, on en a parlé lors de cette attaque du FBI et de Hoover aux États-Unis, parce que vraiment, ils ont trouvé chez Jane Seberg le maillon faible, parce qu'elle était actrice. Et c'est vrai qu'une part de ses errements, de sa folie, on la comprend, hein, se retrouver en une d'un journal qui vous espionne. D'ailleurs, la petite fille qu'elle porte et qui mourra au bout de deux jours, elle lui avait donné le nom de la mère de Romain Gary, Mina. Je trouve ça magnifique. On voit qu'elle était encore attachée à Romain Gary. Et ils ne se sont jamais vraiment quittés, ils sont toujours là. Et Romain Gary, qui est quand même, n'oublions pas, quelqu'un qui est très féministe, hein, il a écrit des livres très féministes, eh bien, il est là pour elle et il est là pour son fils. C'est-à-dire que jamais il ne se serait suicidé avant les 18 ans de Diego. Il veut être là pour son fils jusqu'à sa majorité.
Et il ne l'a pas abandonné non plus, comme il la savait traquer. C'est une des raisons pour lesquelles il est resté.
Jamais. Il fait cette conférence de presse incroyable dont vous avez diffusé un extrait où il vient. Il aurait pu ne plus se mêler de cette histoire. Il n'est plus le mari de Jane Seberg. Mais il est là toujours. Et c'est son côté féministe, je pense.
Pour terminer, j'aimerais juste revenir sur cette phrase étonnante que Stéphane a lue, la petite phrase qu'il laisse au moment de son suicide. Aucun rapport avec Jane Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. Gary, l'humaniste, enfin c'est étonnant cette phrase, elle est un peu sèche, elle est un peu étrange parce que c'est peut-être pas seulement pour Jane Seberg qui se suicide, mais il y a peut-être un petit peu de ça aussi quelque part dans son sentiment. Elle est étrange, elle vous étonne pas cette phrase?
Elle est très étonnante parce que d'abord on sait que Romain Gary est un menteur, n'oublions pas qu'il a remporté deux fois le prix Goncourt, des alias, il en a eu plusieurs d'ailleurs, il a eu plusieurs pseudonymes et plusieurs alias. Donc quand il dit quelque chose, on peut toujours y voir le contraire. Il a décidé de ne pas mourir en romantique, hein, puisqu'il dit les fervents du cœur brisé, c'est-à-dire que ne croyez pas que je me suicide à cause de Jane Seberg, mais on peut y voir justement l'inverse aussi.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Ariane Chemin, de nous avoir fait revivre l'histoire d'amour intense entre Jane Seberg et Romain Gary, à qui vous avez consacré un livre, Mariage en douce, Gary et Seberg, paru aux éditions Les Équateurs. Et puis évidemment, on peut vous lire régulièrement dans vos enquêtes dans les pages du Monde.
Merci.
Merci beaucoup.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages qui se sont mariés en douce. Après Jane Seberg et Romain Gary, vous nous brossez, Mathieu, le portrait
à 99% vrai, d'un couple de stars mondialement connues qui ont pourtant opté aussi pour la plus grande discrétion. Rassurez-moi, c'était quand même pas aussi discret que votre mariage.
Non, ça l'était encore plus, Stéphane. Bon, comme je vous sens, je sens que vous avez envie de mettre les choses à plat au sujet de ce mariage, qu'on crève l'abcès, puisque je n'ai invité personne autour de cette table alors que j'aurais peut-être dû, je tiens à préciser une chose, il faut bien distinguer, il y a les mariages discrets, le mien, et les mariages radins, celui de nos personnages du jour, l'actrice Rachel Weisz et Daniel Craig, qui, sachant qu'il a été le James Bond le mieux payé de l'histoire et l'acteur le mieux payé tout court en 2021, aurait pu se fendre d'un petit buffet pour une cinquantaine de convives. Au lieu de ça, rien. La cérémonie a eu en 2011 nombre d'invités 4, dont les deux marmots de Rachel et Daniel, les deux autres étant les amis chez qui le mariage avait lieu. Ne pouvant me résoudre à croire que James Bond puisse être radin, j'ai cherché à comprendre les raisons de ce mariage minimaliste. Alors quand on l'interroge là-dessus, Daniel se contente de dire « On l'a fait pour des raisons privées, parce qu'on ne voulait pas que ça foire, parce que ça serait partager un secret, et le point essentiel, c'est que c'était secret. » Oui, on a compris, Dani, calme-toi, visiblement ça rend un peu nerveux et parano de jouer James Bond. Mais d'où vient Daniel Craig ? Natif de Chester, en Angleterre, où il voit le jour en mars 68, il est le fils d'une professeure d'art et d'un père travaillant dans la marine marchande avant d'ouvrir un pub. Et en fouillant, on découvre que ce bon vieux Daniel a des origines françaises. On sait même que ses ancêtres viennent de la Drôme. Oui, James Bond est drômois, Stéphane. Forcément, ça claque beaucoup moins, mais il ne l'a pas dit au casting. Quand, à 4 ans, ses parents se séparent, il part vivre avec sa maman à Liverpool. Et c'est là que Daniel découvre le théâtre. À 16 ans, il intègre le National Youth Theatre de Londres et fait parallèlement la plonge dans des restaurants pour se faire de l'argent de poche. Il fera ses premiers pas à l'écran dans des séries britanniques de qualité discutable avant de s'envoler, tenter sa chance aux États-Unis. Et c'est là que notre Daniel tape dans l'œil des producteurs de James Bond qui lui proposent le rôle culte. Et là, d'après vous, Stéphane, il répond quoi, Daniel ?
Bah, vous dites oui !
Vous dites oui, mais pas Daniel ! Lui, il dit jamais oui tout de suite, c'est sa technique avec les femmes, c'est sa technique avec les films. En plus, déjà méfiant, lorsqu'on lui propose le rôle de James Bond, donc en 2005, il est persuadé qu'en fait, on veut lui faire passer l'audition seulement pour mettre d'autres acteurs en valeur et que, tout au plus, il obtiendra le rôle d'un énième méchant. Bon, finalement, c'est pas du bluff, on lui propose vraiment le rôle, et pour 2,8 millions d'euros, celui qui faisait encore la plonge dans les bars il y a quelques mois, se laisse convaincre. Les premières réactions sont catastrophiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Daniel se fait atomiser. Trop petit, trop blond. Il a les yeux trop bleus. Pas de charme, pas de charisme. Que n'a-t-on entendu à l'époque ?
Il a collaboré avec les nazis.
Oui, on a tout entendu. Avant même d'avoir tourné son premier James Bond, Daniel est qualifié de James Bland dans la presse, soit James Fad. Les fans vont même jusqu'à menacer de boycotter la sortie de Casino Royale. Mais ils vont vite se calmer, car Daniel est un être paradoxal qui doute énormément, mais qui, lorsqu'il se lance dans quelque chose, devient inarrêtable. Il refuse de se teindre les cheveux, comme lui suggère la production, mais décide en revanche d'arrêter de fumer et de prendre 10 kilos de muscles. Bon, comme nous tous chaque 1er janvier, sauf que lui, il ne flanche pas le 3 janvier, il va jusqu'au bout. Il raconte « J'ai demandé à mon coach un corps qui, dès que le t-shirt tombe, laisse à penser que James Bond peut tuer quelqu'un. » C'est ce que vous avez demandé, je crois aussi, Olivier. Hein. On ne doit pas avoir le même coach. Casino Royale sort en salle en novembre 2006 et devient le plus gros succès de la saga. Les critiques sont dithyrambiques. James Bland est oublié. La folie Daniel Craig peut démarrer. En 2009, à l'occasion de la journée de la glace, oui, ça existe, un Eskimo est même créé à son effigie. Pratique, on peut désormais tous sucer Daniel à la plage.
J'adore.
Daniel est un perfectionniste. Mais attention, Daniel ne fait pas partie de ces interprètes de James Bond qui finissent par se prendre pour James Bond dans la vie. On se souvient le phénomène Pierce Brosnan. Non, il nous rappelle dernièrement ceci, je cite « N'oublions pas que 007 est en fait un gros misogyne. Je pense qu'il veut se jeter sur tout ce qui a un pouls. » Tout l'inverse de Daniel à la ville, hein, un gentleman au cœur tendre, capable de fondre en larmes lorsqu'il entend pour la première fois la musique qu'Adèle a composée pour Skyfall. C'est vrai que c'est beau. Hein. Son temps libre, quand il n'écoute pas Adèle en chialant, Daniel le passe avec ses potes au pub, devant un bon match de rugby, ou alors tranquillement chez lui avec sa femme, Rachel Weisz. Avant elle, Daniel avait certes connu quelques femmes, Kate Moss, Sienna Miller, la productrice Satsuki Mitchell, mais c'est en Rachel qu'il a trouvé son port d'attache. Leur relation débute pourtant sur des bases purement amicales, platoniques. En 1994, ils jouent ensemble dans une pièce de théâtre, mais la star de Mommy est alors en couple avec un autre homme. Leurs chemins se séparent donc, ils font chacun un enfant de leur côté, puis se retrouvent quelques années plus tard sur le tournage de Dream House, une daube si honteuse qu'ils refuseront d'en assurer la promo, mais qui va sévèrement les rapprocher. Rachel quitte son mari, Daniel renonce à cette période de célibat pendant laquelle il écumait les bars gays pour y rencontrer des filles venues faire la fête. Tactique de drague hautement stratégique que je vous conseille, David. Écoutez, il explique en interview « Je vais dans les bars gays depuis aussi longtemps que je me souvienne et l'une des raisons est que je me bagarre moins souvent dans les bars gays. Tout le monde y est généralement cool et je pouvais y rencontrer des filles parce que beaucoup de filles étaient là pour exactement la même raison que moi. » C'est malin, hein, c'est vicieux, il fallait y penser. Mais tout ça, c'est fini pour Danny. À présent, le samedi soir, c'est Gigot Petit Pois devant The Crown avec « Moment ». Depuis leur mariage en 2011, les Craig Weiss restent donc hyper discrets sur leur vie privée, on aura compris, ils refusent tous les selfies. Daniel n'est présent sur aucun réseau social, il déteste ça. En 2018, ils accueillent une petite fille dont on ne connaîtra jamais le prénom, évidemment. Le couple mène une vie paisible à Brooklyn, on ne leur connaît ni penthouse à Manhattan, ni île privée dans les Bahamas. Pourtant, ils auraient les moyens. Vous vous souvenez du premier cachet de Daniel pour Casino Royale?
Oui, 2,8 millions.
Hein, vous étiez dit pas mal pour dire « mon nom est Bond, James Bond ». Eh bien, sachez que ce qu'il a décidé à signer pour mourir peut attendre, le dernier là, alors qu'il avait déclaré en 2015 qu'il préférait se tailler les veines plutôt que de rejouer James Bond. Eh bien finalement, il ne s'est pas taillé les veines quand il a vu le chèque. 21 millions d'euros, Stéphane, de quoi nourrir des regrets. Nous qui nous étions présentés au casting, il ne nous avait pas pris, pas assez affûté, on nous avait dit, Stéphane avait rétorqué.
On n'est pas gros, on a juste des trucs dans les poches.
On se consolera en pensant aux pauvres enfants de Daniel et Rachel qui pourraient ne jamais profiter de la fortune paternelle. Daniel déclarant en effet ne rien vouloir laisser à ses enfants. Je trouve que les héritages sont de très mauvais goût, déclare-t-il. En tout cas, James Bond, c'est fini pour Dany. On ne connaît pas encore son ou sa remplaçante. Vous savez que c'est une des pistes, hein, même si Daniel n'est pas très chaud pour une remplaçante. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu'il devrait y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme, a-t-il déclaré dernièrement. Alors, qui ?
On est mains.
Non, Stéphane, n'insistez pas. Vous n'êtes ni noir ni femme, vous n'avez aucune chance.
Je n'ai absolument pas la prétention. En tout cas, merci Mathieu, c'est
les mains.
Oh les mains. C'est 99% vrai, donc un peu de faux, mais bon.
Oui, mais pas sur les chiffres en tout cas. Oui. On s'inquiète pas trop pour Daniel.
Non. Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos cachotiers du jour. C'est pas vous Mathieu qui déciderez de vous marier comme ça, sans prévenir personne, surtout sans inviter à la cérémonie vos copains d'historiquement vôtre.
Certainement pas Stéphane, je trouverais ça un peu mufle. Mais changeons rapidement de sujet, car qui voilà Olivier et David. Olivier,
il ramène sa mandarine.
Il a ramené non pas sa fraise, mais sa mandarine.
Nous allons parler de clémentine et de mandarine, et je vous donnerai les éléments de différence entre les deux.
Et puis, ce qu'on n'achète pas en revanche, c'est le Kodak Disc, cet appareil photo novateur qui devait tout révolutionner et qui n'a rien révolutionné. David Castello-Lopez nous raconte.
Alors, on est presque à la 300e. Émission de Historiquement
Vôtre. On va faire une chouille.
Ce qui veut dire 300 chroniques d'Olivier Pouls, 900 portraits et aussi 300 chroniques des origines de David Castello-Lopez. Et donc je pense qu'il n'y a pas à avoir grand monde en dehors des gens dans ce studio qui ont écouté la totalité des émissions.
Ma grand-mère.
Voilà, grand-mère. Mais ceux qui les ont toutes écoutées, ils ont appris, des choses sur deux types de trucs. Un, les origines des choses de la vie et deux, moi. Voilà, j'ai quand même beaucoup d'informations.
Encore plus
de choses sur moi. Mais il y a une chose que les auditeurs et vous-même ne savez pas encore, c'est que pendant mes études, j'ai écrit un mémoire de 150 pages sur les appareils photo amateurs de la deuxième moitié du XXe siècle.
Oh non.
Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en termes d'appareils photo grand public commercialisés entre Pompidou et Chirac, j'en connais un rayon. Et dans les dizaines de modèles que j'ai étudiés, il y en a un qui m'a touché particulièrement. C'est le Kodak Disc, dont voici un exemplaire.
Montrez-nous
ici.
La bête.
Voilà. Je pense que Olivier et Stéphane, peut-être vous vous en souvenez. Vous voyez, ça vous dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Voilà. Moi, je m'en souviens un tout petit peu parce que je le voyais quand j'étais petit. Bon, maintenant, pour bien comprendre pourquoi c'est intéressant, il faut que je vous explique un tout petit peu, vite fait, l'évolution des appareils photo amateurs dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, à partir des années 60... Il recycle sa thèse.
thèse un petit peu exagérée.
À partir des années 60, il y a eu un boom immense dans la pratique de la photographie amateur dans le monde, pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est l'apparition d'appareils super faciles à utiliser, inventés par Kodak. Le premier, et celui qui a vraiment lancé la photographie de masse, c'est celui-ci, l'Instamatic. L'Instamatic, c'était la première fois que la photographie c'était aussi simple. C'est-à-dire que les pellicules, elles étaient enfermées dans une bobine. En fait, c'était très facile. On la mettait à l'intérieur comme ça et il n'y avait aucun problème de chargement. Les réglages étaient complètement rudimentaires. C'était vraiment, ça ressemblait à des appareils photo jetables, sauf qu'ils n'étaient pas jetables. Il y a un autre modèle ici que vous avez peut-être connu un petit peu mieux qui était l'Instamatic Mini.
Et ça, vous
c'était...
avez gardé tout ça, vous ?
Je ne les ai pas gardés. Je les
ça,
ai
ça vaut une
achetés,
fortune, ça, aujourd'hui.
Non. En fait, ils ont été produits à tellement d'exemplaires que voilà, il y en a tellement dans les brocantes qu'on voilà. Et ce sont ces appareils, les pellicules et le développement des tirages photo qui ont permis pendant des décennies aux fabricants comme Kodak de se faire des coups en or. Et à la fin des années 70, encore sur leur lancée, Kodak s'est chauffé pour inventer un nouveau modèle d'appareil révolutionnaire. Ils ont fait des recherches pendant 5 ans et ils ont sorti ce qui a été présenté par certains spécialistes comme le format amateur du siècle, le Kodak Disc. Alors quand on voit comme ça, je trouve qu'on dirait encore aujourd'hui un appareil du futur. D'une part, parce qu'il est tout plat.
C'est comme dans Star Wars, c'est le futur, mais avant. Quoi.
Exactement, c'est le futur un peu rouillé. Et voyez, et surtout à cause des pellicules qu'on mettait dedans. Regardez-moi ça. Ça pèse 15 grammes, c'est ultra plat, c'est très très beau à voir. Kodak, ils ont mis le paquet sur la communication, ils ont martelé des pubs dans le monde entier. Et comme on était en 1982, il fallait absolument mettre des chansons dans toutes les pubs, même quand on n'avait personne pour les écrire correctement. Écoutez.
Kodak invente le disque qui fait des photos.
On dirait le texte d'un manuel d'utilisateur, mais mis sur une musique enthousiaste. Oui. Mais cette chanson, c'était en fait une adaptation de la version américaine de la publicité, un petit peu mieux que voici. Picture a brand new world. Picture a brand new world. Deux fois la même phrase. Imaginez un monde nouveau avec le jeu de mots sur picture, bien sûr. Légèrement moins ridicule quand même. Kodak, ils ont dépensé des millions, ils ont misé toute leur niaque dessus et ça a été le pire désastre commercial de l'histoire de la photographie amateur dans le monde. Très très peu de gens en ont acheté comparé à ce que Kodak espérait. Et on considère même souvent que c'est un peu le début de la fin de Kodak, qui a fini, on le sait, par faire faillite parce qu'ils ont raté le virage numérique. Et du coup, ça donne envie de savoir pourquoi. Hein, ça vous donne envie de savoir pourquoi. Non, pourquoi, alors, pourquoi ça a été un tel échec. Pourquoi cet appareil qui semblait avoir tout pour lui a été un échec. Eh bien, il y a une raison que tout le monde cite et qui paraît bête à tel point elle est évidente, c'est que la qualité des photos était vraiment très très mauvaise.
Non, ça a peut-être joué. Mais voilà,
le négatif du Kodak disque, il était à peu près 11 fois plus petit qu'un négatif normal qu'on met dans les appareils photo aujourd'hui. Alors cette petitesse, elle était censée être compensée par des techniques de développement révolutionnaires, mais pour que ces techniques donnent toute leur puissance, il fallait que les labos s'équipent avec du nouveau matériel très cher, et ils ne l'ont pas fait. Résultat, l'appareil avait beau ressembler à un appareil du futur, il faisait des photos beaucoup moins bien que les appareils du passé. Et donc, dès 1988, 6 ans après sa sortie, Kodak a cessé de vendre ses appareils photo Kodak Disc. Par gentillesse, ils ont continué à produire des pellicules pendant encore 10 ans, mais depuis le 1er janvier 1999, ce n'est plus possible d'acheter des pellicules Kodak Disc. Moi, j'ai gardé une petite tendresse pour cet échec flamboyant. J'en ai parlé dans mon mémoire, et c'était plutôt une réussite parce que j'ai eu 16 sur 20.
Et on peut se procurer ce mémoire pour ceux qui voudraient aller plus loin dans l'histoire de la photo.
Il n'a pas été publié.
C'est une honte. On va trouver un éditeur pour vous très facilement.
Mais globalement, Kodak, c'est aussi l'histoire d'un raté absolu, puisqu'ils ont complètement loupé
le
tournant numérique, alors, et qu'ils ont disparu.
Alors même que c'est eux qui ont inventé l'appareil photo numérique.
Non.
J'en avais parlé dans une chronique l'année dernière.
Oui, moi j'ai écouté attentivement vos 300 chroniques.
Vous les avez toutes oubliées. On les oublie rapidement, mais on les écoute attentivement. Merci beaucoup, David.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Olivier Pouls, vous nous parlez aujourd'hui de la clémentine, car cette saison.
Oui, je veux aussi vous parler de la mandarine, parce que les deux sont assez difficiles à dissocier. Est-ce que vous connaissez la différence, d'ailleurs, entre une clémentine et une mandarine ?
Il y a le mandarinier et le clémentinier.
Oui, c'est vrai. Mais quelle différence finalement entre les deux ?
Vraiment aucune idée.
Ah ben vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors les amis, une fois de plus, j'ai envie de dire...
qui fait son autopromo dans... Oui, allez-y Olivier.
Il y en a une qui est greffée avec une orange ou pas du tout ?
Oui, exactement. Il y en a une qui est, on pourrait dire, une variété naturelle à part entière. C'est la mandarine. La mandarine, elle provient d'Asie, alors on ne sait pas très bien, de Chine, peut-être des Philippines. Elle est arrivée assez tardivement en Europe, autour du 19e siècle. Et elle doit d'ailleurs son nom à la ressemblance de sa teinte avec les costumes chinois des mandarins. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on les appelle des mandarines. Et elles sont arrivées en Europe et on a planté des mandariniers un petit peu partout. Et c'est devenu un fruit relativement populaire. Alors que la clémentine, ça naissance est prête un tout petit peu à discussion. En tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'elle a été découverte à la fin du 19e siècle par un père, le père Clément, qui va lui aussi laisser son nom à ce fruit, de son véritable nom Vital Rodier. Il était installé près d'Oran, à Misserguin précisément, où il était en charge des pépinières d'un orphelinat. Alors on ne sait pas exactement si c'est lui qui a forcé cette création, ou si c'est la nature qui, par accident, a donné lieu à la clémentine, mais tout ce qu'on sait, c'est que la clémentine est le fruit de la pollinisation d'arbres de mandariniers par des arbres d'oranger.
Ah, et c'est donc, pour ça que je préfère la clémentine, je pense.
Alors, côté sa plus particularité, c'est qu'elle est d'abord très facile à éplucher. Mmh. David le disait tout à l'heure, avec la banane, c'est l'un des fruits les plus épluchables. Qu'elle ne contient pas de pépins. Et qu'elle a un petit goût un peu plus acidulé qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup. Alors, la grande région de production de la clémentine en France, c'est évidemment la Corse. On la trouve depuis 1925, la succulente. On est en pleine saison. C'est une saison assez courte. Novembre, décembre, début janvier, ça va se terminer. Elle obtient une indication géographique protégée depuis 2007. Et il faut faire très attention parce que les vergers dans lesquels on a des clémentiniers aujourd'hui, il faut les protéger et il faut les mettre dans des lieux isolés où il n'y a pas d'orangers, par exemple, ou de mandariniers trop proches, parce que sinon les jeux de pollen pourraient faire qu'on perdrait finalement ce qu'est la typicité de la vraie clémentine corse dont il faut effectivement préserver l'environnement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces délicieux fruits? Vous pouvez les manger tout simplement comme ça, je vous en ai apporté. Là, il n'y a pas de recette.
Mais... Je ne suis pas fait chier aujourd'hui. Ça, c'est plus
alors,
facilement.
Vous l'épluchez, voilà, et vous... Mais voilà, si vous avez envie d'enfermer ces saveurs magiques...
Une salade de mandarine.
Oui, dans laquelle vous rajoutez un tout petit peu de thym, par exemple. Et le thym et la mandarine, c'est absolument délicieux. Voilà, faites 3-4 heures à l'avance, de manière à ce que le jus...
Une tarte fine à la mandarine, avec du thym.
Une tarte fine aussi. Mais moi, je vous propose de faire des clémentines confites, parce que comme ça vous permet d'en manger tout au long de l'année. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais c'est très facile à faire. Pour 1 kg de clémentine, il vous faut 800 g de sucre, 20 cl d'eau et 10 cl de rhum. Un petit peu d'alcool, mais vous ne le retrouverez pratiquement pas. Vous le retrouvez gustativement, mais l'alcool va disparaître. Hein. Vous ne serez pas bourré en mangeant.
On peut en manger avec les enfants.
Exactement. Donc, premier jour, vous allez tailler vos clémentines en grosses lamelles. Vous allez, dans une casserole, faire chauffer les fruits, l'eau et le sucre. On laisse cuire pendant 20 minutes à petit feu. On arrête, on laisse refroidir 24 heures. Le lendemain, on recommence, on rallume le gaz, on relaisse cuire tout ça pendant une petite vingtaine de minutes. On laisse à nouveau refroidir, on fait ça 4 jours d'affilée. À chaque fois, ça prend 20 minutes, c'est pas très long. Et le dernier jour, on va juste rajouter le rhum. On va tout mettre dans des grands bocaux. On va fermer les bocaux. Et on va laisser maturer, si on peut dire, cette préparation pendant au moins 3 ou 4 mois. Et c'est à ce moment-là que l'infusion va se faire. Et on peut dire qu'elles seront vraiment excellentes à l'été qui va suivre la préparation et même l'année suivante. Et donc voilà, vous n'aurez plus qu'à ouvrir vos bocaux et vous servir de délicieux quartiers de clémentine confite.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, c'est un peu comme la clémentine, et bien... Facilement, on y laisse sa peau. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter? C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe. Une question pour chacun. En cas d'égalité, ou dans le succès ou dans l'échec, eh bien, on peut vous départager avec une réponse chiffrée. Il faut s'approcher au plus proche du chiffre. Olivier, le 13 février 1960, la France teste sa première arme nucléaire dans le désert algérien. Le nom de code de l'opération, c'est quoi? Opération Fennec, la gerboise bleue ou scorpion atomique?
Bon, scorpion atomique, c'est ridicule. Évidemment, jamais il n'aurait osé prendre ça. Le Fennec du désert... Oui, ça me semble. Et l'autre, vous m'avez dit, la gerboise...
La gerboise bleue.
La gerboise bleue, ça sonne pas mal. Je ne sais pas pourquoi ça m'attire. Allez, je vais dire la gerboise bleue.
C'est une bonne réponse. Mmh.
Fennec, c'était romaine, non,
oui,
c'est ça.
Oui, exactement. Ah, oui, c'est une autre opération militaire, même, mais c'est pas atomique, là. L'explosion est 3 fois plus puissante qu'Hiroshima. Les habitations les plus proches sont à 70 km. La France a procédé au total 17 essais nucléaires dans le Sahara. David, Marie Tussaud, la créatrice du célèbre musée de cire du même nom, a ouvert son établissement en 1835. Elle avait 34 ans, ce qui est tout de même très jeune. Vrai ou faux?
Que c'était quand même très jeune?
Non,
ou que...
non, ça, à l'époque...
Elle avait 34 ans, mais non, c'est déjà vieux.
C'était déjà vieux.
Non, non.
elle avait 35 ans.
Elle avait 34 ans.
Est-ce que c'était une jeune femme ou une vieille dame ou une...
Moi, je pense que c'est faux, elle était encore plus jeune que ça.
Vous dites que c'est faux?
Oui.
C'est faux. Elle avait 74 ans.
D'accord.
Et c'était vieux.
Elle est décédée à 88 ans. Oui, d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle avait emporté des choses qu'elle avait récupérées à la cour de Versailles quand elle est partie à la Révolution créer son musée de Tussauds à Londres. Mais bon, ça c'est accessoire.
Mathieu. C'est toujours bon d'avoir des infos en plus, oui. Stéphane.
Restons dans la cire.
ça va être
Marie
ça va
Tussaud,
être récupéré
toujours
comme...
créatrice ouais. du musée du même nom, a sorti ses mémoires en livre. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'elle avait menti. Elle a donné à son père des origines nobles, alors qu'il était en fait descendant de bourreaux. C'est vrai ou c'est faux ?
Elle n'a pas des origines de bourreaux, la question n'a pas vraiment d'intérêt. Ou alors, ses parents étaient charpentiers. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt. Sinon, oui, je répondais oui, ses parents étaient bourreaux.
Bonne réponse, Mathieu
Mais
Noël.
Qu'est-ce que c'est ?
Mais oui, la profession était très mal vue, donc elle a menti. Ça ne l'a pas empêché de rencontrer le succès. Aujourd'hui, il y a 24
Mais comment
musées...
elle a fait pour... Enfin, c'est pas assez difficile de mentir sur son origine à cette époque. Comment elle a fait ?
En fait, elle a traversé les frontières.
Enfin, ah oui, ouais. D'accord. De pays en pays, elle a fait... Okay.
Alors, la question qui départage, vous avez tous les trois bien répondu à l'épreuve de sélection. Mm-hmm. C'est un peu comme une primaire, vous voyez. Et maintenant,
maintenant, qui sera Valérie Pécresse ?
La réponse la plus proche remporte la lutte finale. Aujourd'hui, l'usage médical du cannabis n'est toujours pas autorisé en France. Mais par le passé, ça l'a été. Jusqu'en quelle année le cannabis thérapeutique a-t-il été autorisé ?
En France ?
En France.
Pas en Gaule, hein, en France ?
En France.
Allez, 1949.
1949. Mathieu,
1965.
1922.
C'est 1956. C'est Olivier qui gagne.
Pas beaucoup. Mais attends, c'est quelle année alors ? C'est quelle année ?
56.
56, ça, oui. Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors avant, en 55, on pouvait
on prenait
des
en sirop.
En sirop, oui.
Contre la douleur, comme sédatif.
Oui, bien sûr.
Au 19e siècle, on trouvait même du cannabis dans les sirops pour enfants.
Oui. Oh, c'est pour ça que les enfants étaient plus calmes.
Il y a des pubs comme ça du 19e siècle. Du cannabis pour les enfants. Avant d'aller dormir.
Bien sûr. Ouais.
C'est à la bonne époque où on buvait du vin à la cantine.
Oui, c'est ça.
La bonne époque, des propos qui n'engagent que vous, Olivier Pouls. En tout cas, c'est une belle victoire, Olivier. Ouais. Une de plus, j'ai envie de dire, pour la Belgique. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré aujourd'hui à ces couples qui se sont mariés en douce, ma foi. Quelles sont, selon vous, les raisons qui peuvent pousser des amoureux à se marier en douce ? Stéphane, moi, ça me dépasse, personnellement.
Oui, moi aussi, je suis comme
vous. Vraiment ridicule.
Demain, c'est de belles histoires.
Oui. Demain, Stéphane, nos personnages aussi ont tenté d'être discrets, mais visiblement, ça n'a pas suffi.
Ah non, demain, on réunit trois personnages qui ont voulu tuer le président, mais qui ont raté leur coup. Richard Pavlik, qui a voulu tuer John Fitzgerald Kennedy. Fania Kaplan, une militante russe qui a tenté de tuer Lénine.
Et un président américain qui a bien failli tuer un autre président, Boris Yeltsin, en le faisant mourir de rire, Bill Clinton.
Oh, j'ai hâte d'être à demain. Alors à demain Mathieu, à demain les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.